Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont.
Bonjour ou bonsoir, mais surtout, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rêve Collectif. Aujourd'hui, nous sommes pour la première fois dans la vraie vie, en IRL, comme disent les jeunes, avec deux amis à moi, très chers, Johan Chalvet, tout premièrement, et pas Félix Routier, dont... Félix, tout court, que vous avez déjà vu, bien sûr, lors de l'épisode Crash Test, et qui est maintenant mon compagnon dans cette aventure formidable, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier, parce qu'on n'a pas pu le faire avant, Léa Chapelle, Chapelle Illustration, et Mathis Delpoux, pour avoir composé respectivement la couverture, l'illustration de ce podcast. Et,
ah, c'est eux sur Spotify, là.
Et l'intro, oui. Et l'intro, musicale. Jazzy, qui nous a demandé moult essais avec.
Ils sont crédités dans la description, je précise.
Bien sûr, mais je sais pas
très si. Professionnel,
jamais... Non, mais je lis, jamais, moi, je lis jamais. Moi, je lis jamais les intros, donc je sais jamais qui c'est. Enfin bref, du coup, on s'en. Non, mais du coup, alors aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui m'est très cher et
on
qui me tourne
rien,
dans la tête.
On ne sait rien. Il a gardé la surprise. Il nous a total impro. D'habitude, moi, je préviens les gens, je dis ok, ce sera sur ça, comme ça, ça laisse du temps pour réfléchir. Lui, il a dit. Moi, je veux garder l'authenticité.
Oui.
On va faire. Je vais vous lâcher le truc.
Clairement,
voilà,
c'est ça.
Il va nous faire à l'impro. Nous, il va falloir qu'on. Pas qu'on bégaye, en fait. Il faut qu'on ait des idées. Donc, il y a intérêt à être.
Mais des idées, il y en a plein. Et de toute façon, au pire, je relancerai. Et puis, on parlera de ma bite. L'idée, c'est. en fait, le thème, c'est. En fait, c'est une phrase et un peu une expression qui est récurrente dans la vie.
C'est
jouer. Non, c'est jouer le jeu.
Jouer le jeu.
Par exemple, tu vois, quand t'es avec tes cousins plus jeunes, par exemple, je sais que Johan, que t'as une demi-sœur qui est beaucoup plus jeune que toi.
C'est ça.
Et par exemple, c'est quand elle croit au Père Noël et que t'y crois plus. Mm-hmm. Et que ta mère, elle te dit, mais joue le jeu.
Ouais.
Tu vois. Et pareil, quand tu commences les études et que ça te fait chier, ton père dit, non, mais joue le jeu, tu verras après, ça te sera bénéfique.
Parallèle.
Et en fait, tout ce truc de jouer le jeu, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est complètement, mais tout le temps, qui est omniprésent dans notre société et dans chacun des domaines. Et je me demande en fait si c'est vraiment nécessaire et si c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire dans un objectif de réussite. Par exemple, hier avec Brice, je voulais enregistrer un podcast juste tous les deux à l'ancienne, etc., comme le crash test. Et il m'a dit « Ouais, non, machin, je suis fatigué. » Je lui dis « Tu joues à LOL ?» Et il a dit « Ouais. » Et il voulait pas. Non, mais en fait, le truc, c'est juste, est-ce que t'avais envie de jouer le jeu de la discussion de potes et même quand ça va pas, tu vois, on discute. Non, il a décidé de casser, de pas jouer
moi,
le jeu.
Moi, j'ai une vraie question.
Et tout à son. Bien sûr.
Est-ce que ce podcast n'est pas un prétexte pour faire la cour d'assises à Brice qui n'a pas voulu.
Mais non, c'était juste un exemple.
Moi, personnellement,
c'était
moi,
juste
je
un
reproche parce que la direction qu'il prend après, c'est de dire justement. Que là pour le coup, j'ai pas joué le jeu. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose?
Exactement, c'est un peu toute la question. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de jouer le jeu dans toutes les situations?
Ouais, mais.
Bah moi je pense, moi la première idée à laquelle qui me vient quand tu me parles de ça, c'est on joue le jeu pour s'intégrer, pour rentrer dans le moule ou pour faire plaisir. Par exemple, là j'aurais pu dire pour te faire plaisir, vas-y, mais vu que je me sentais pas, tu vois, d'attaque, peut-être que ça aurait eu une influence négative.
Ouais, c'est
donc, finalement ce qui
en fait.
Compte, voilà, c'est ça, ce qui compte c'est ce que toi tu ressens plutôt que ce que les autres voudraient de toi peut-être.
Ouais.
Des fois il vaut mieux ne pas jouer le jeu parce que t'as pas envie de jouer le jeu. Mais t'as pas envie de jouer le jeu, tu devrais pas jouer le jeu.
Mais c'est un peu le truc, moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a un moment où on a l'impression d'être obligé de jouer le jeu, par exemple dans les études, tu remarques que quand tu joues pas le jeu, t'es très vite cassé, que ce soit par les profs, par tes parents, souvent même par les gens, et je veux dire, il y a un jugement sur le fait d'être un cancre, d'être un mauvais élève, de se faire virer, etc. Tout le monde, toute la société te juge, alors qu'au fond, ne pas jouer le jeu pour un enfant qui croit au Père Noël, pour un ami à toi qui voudrait qu'on fasse un truc, etc., c'est pas grave, ça va juste lui foutre le seum. Et il n'y aura aucune
conséquence.
Je pense que c'est un peu la question des conséquences, en fait. Et moi, ça m'intéressait bien aussi pour le retour par rapport à l'épisode 1 de Rêve Collectif, où je voyais Daphné qui jouait complètement le jeu de Brice et qui était complètement dans le thème et qui voulait pas du tout.
Cours d'assises. Ouais,
c'est ça.
Non, mais je pense que c'est important de revenir sur ce qu'on fait avant.
Moi, j'ai une
vraie
question. Pourquoi tu as précisé dans l'objectif de la réussite?
Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que on a l'intention de réussir quelque chose, on dit il faut que tu joues le jeu, tu vois. Par exemple, mais si tu veux changer les choses, joue le jeu de la politique, monte un parti, etc.
Ouais.
Machin.
Est-ce que ce serait pas juste simplement déguisé en fait? C'est une sorte d'ordre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme par exemple, tu prenais l'exemple des gens genre t'es cancre ou t'es mauvais élève ou quoi, on dit joue le jeu de l'éducation. En fait, c'est juste une forme déguisée pour te dire si tu y es pas, t'es mort en fait.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
Ouais, c'est un peu. En fait, ça devient vraiment, comment tu dis ça, vraiment mal perçu quand toi tu sais que c'est pas du tout un jeu en fait.
Oui, exactement, exactement, et c'est vraiment ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand en fait, je parlais du théâtre, ce qui n'intéresse personne, la preuve, les salles sont vides, mais
j'ai besoin de budget.
Non, mais en gros, j'ai fait un stage d'une semaine pendant le conservatoire et je me suis rendu compte qu'on pouvait ne pas jouer le jeu du théâtre et faire autre chose. Et en fait, tu te rends compte que même au sein d'un art, donc quelque chose qui est censé être libre, mm-hmm. Et ben pour que ça touche les gens avec des guillemets avec les doigts, ou pour que voilà, pour que ça marche, il faut jouer le jeu. Et de jouer le jeu même dans l'art, ça me paraissait complètement fou. Ouais. Exactement. Et ensuite, je me suis rendu compte que même avec les gens, on jouait le jeu, que si t'es trop direct avec eux, si t'es trop sincère, ce qui n'a pas forcément été le cas dans la plupart du temps, en fait, on est poli pour jouer le jeu de l'autre, pour essayer de, tu vois, on dit faire un pas vers l'autre, mais c'est pas tellement ça, c'est juste jouer le jeu de la société et être poli, parce que le jeu de la société, c'est d'être poli, tu vois. Ouais.
Sauf en fait, jouer le jeu serait plus des codes, en fait.
Exact. Mais ce serait tous les codes dans l'objectif d'une réussite ou de la poursuite de quelque chose.
En fait, ce qui me paraît le plus énervant et frustrant, c'est que quand on te dit jouer le jeu, au lieu de te dire bah, explicitement c'est un code, comme ouais. Je sais pas, une étape à passer, on te dit en mode ça dépend de toi. Exactement. Mais en réalité, ça dépend pas de toi, c'est pas moi qui ai choisi les codes de ça, tu vois. Bah, un mec qui est mauvais à l'école et qui a des capacités folles en dehors, par exemple, je sais pas, dans l'art, tu parlais de l'art, un mec par exemple qui a des talents d'improvisation, nanan, qui sont pas du tout représentés comme un milliard de capacités dans l'école.
Exactement.
Il pourra jamais se dire, enfin, il peut tomber dans le piège de dire, ok, je suis plus du tout, non, je joue pas du tout le jeu comme tu le dis, ou juste il se dit, ah ouais, mais en fait, tu sais, il culpabilise, il se dit, vas-y, mais en fait, je comprends pas les codes ou je suis pas bon pour ces codes là, tu vois.
Ouais.
C'est pour ça que ça peut paraître, ça peut vite être super grave en fait, parce qu'on peut te faire culpabiliser d'un truc que tu n'as pas choisi.
Mais à mort, on peut clairement... Mais je pense que c'est ce qui nous est arrivé à moi, je sais, et puis à toi, parce qu'on en a parlé, parce que les spectateurs le savent, puisque évidemment, il n'y a pas des inconnus qui vont nous écouter, c'est que des amis et ma mère, par exemple, que je salue.
On leur passe le bonjour, évidemment. Bien sûr. Ils représentent 97% de l'audimat.
Mais on parle d'audimat pour un podcast?
Je
ne sais
pas, mais arrête de me reprendre, putain.
Non, non, mais c'est...
Ah, il est sévère. Hein.
Bon, non, bref. C'est tout le lieu quelque chose qu'on a vécu et qu'on a appréhendé de deux façons différentes. Moi, j'ai clairement culpabilisé à mort sur moi. Mmh. Alors que toi, t'as dit non, mais c'est les autres qui ils ouais. comprennent pas.
Mais j'étais tombé dans l'extrême opposé, moi aussi.
Ouais, complètement. Parce que tu vois, t'as pas de mesure. Parce que en fait, l'avantage quand tu joues le jeu, c'est que t'as tous les mecs derrière toi qui t'encouragent. Alors que quand t'es tout seul et que tu fais du hors-piste, etc., t'es frontal et t'es tout seul et t'as tout le temps des mecs qui sont n'importe quoi, qu'est-ce que tu branles, machin, quoi, tu veux faire ça.
Et mais puis toutes les erreurs où. En fait, toutes les erreurs, elles te sont pesées totalement
ouais,
pour ça.
Ouais, ouais.
Tu vois, t'as pas joué le jeu. Mm. Tu sais pourquoi. Et en même temps, tout ce que tu as réussi, on va te dire, ouais, mais ce sera pas aussi bien que si tu l'avais fait.
Oui,
donc
c'est
en
ça.
Fait, ça prend... C'est comme, je crois que j'en parlais avec toi, mais je disais, tu sais, dans l'art ou dans les métiers, tu sais, où t'es connu, entre grandes guillemets, tu passes vraiment genre 10 ou 15 années de ta vie d'état de minable
ouais.
à l'état de, je sais pas, de rockstar ou tu vois ce que je veux te dire. Donc, il y a vraiment le moment où on comptabilise les bons choix que tu as fait en dehors de jouer le jeu, bah en fait, ça prend un temps monstre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se lancent pas dans l'art et tout, qui préfèrent être commerciaux, que tu les aimes tant.
On représente les commerciaux. Mais y a exactement ce que tu dis dans un livre, parce que bon, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, après, on peut penser à des artistes comme Jean-Michel Basquiat, etc., qui ont douillé pendant quelques années.
Grosse référence,
Jean-Michel Basquiat.
Je suis très fier que tu l'as cité.
Mais attends, et tu sais qu'il y a
Est-ce qu'on dit que c'était le petit Warhol ou je te tape?
Mais non, c'est Warhol qui était en chute, qui s'est servi de... Ouais. Qui était une étoile. Non, mais je voulais parler d'un roman, moi, de Jack London, qui s'appelle Martin Eden. Lisez-le. Il y a un film qui est sorti, ouais. d'ailleurs, cette année, qui est passé au Festival de Venise, je crois, ou de Berlin. Enfin bref, et très beau film. Et du coup, le livre raconte l'histoire d'un marin qui tombe amoureux... d'une jeune bourgeoise extrêmement éduquée et lui il ne sait pas lire et du coup pour aller à son niveau il va commencer à lire mais d'une façon complètement boulimique, complètement folle, et en fait il va devenir plus intelligent qu'elle et plus intelligent que tous plein de gens, et il se rend compte que bon bah pour la conquérir, étant donné qu'il n'a pas l'éducation, il n'a pas la famille, je veux dire il n'a pas de nom, et ben il faut qu'il devienne riche, et il s'est dit ben pour devenir riche et ben je vais devenir écrivain, parce que quand tu publies des articles dans les journaux ça rapporte v'là la maille.
Okay.
Okay. Et il écrit pendant 2, 3, 4 ans.
Okay.
Et il dit à la meuf, non mais t'inquiète, dès que je perce, j'ai de l'argent, etc., on se marie. Puis au bout d'un moment, la meuf, elle le lâche, quoi, parce qu'elle dit, bon bah non, en fait, je peux pas t'attendre, et puis ça marche pas, je veux dire, tous les journaux te refusent à chaque fois, c'est bon, c'est mort, quoi. Et lui, ben, il avait pas beaucoup d'argent, donc il se prive de manger, il met ses trucs au monde-piété, etc., son vélo, sa machin, etc. Et puis au bout d'un moment, au bout de 4 ans, il envoie en désespoir de cause une dernière petite nouvelle à un journal, et là ça marche. Et là après il a de l'argent, du coup il renvoie les autres nouvelles qui sont prises encore, et on renvoie, et on renvoie, et on publie un de ses romans. Et ça prend des proportions monstres, sauf que lui, au moment où il a envoyé la dernière nouvelle en désespoir de cause, il s'est dit j'arrête d'écrire. Et c'est-à-dire que tout ce qu'il a envoyé par la suite, c'était des trucs qu'il avait écrits avant. Et lui, il est en train de se dire, mais j'ai écrit tout ça avant et vous me considériez comme de la merde, et maintenant que ça marche. Et en fait, c'est pas lui qui a joué le jeu. À aucun moment, il a joué le jeu. C'est eux qui ont joué son jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, je pense c'est exactement ce que tu... C'est ça, c'est ça.
Il a créé ses codes.
Il a créé ses codes et les gens ont fini par le prendre parce qu'ils se sont rendu compte que... Ben, de toute façon, les codes, au bout d'un moment, ils pourrissent. Je veux dire, tu peux pas avoir les codes de la société anglaise du 19e siècle aujourd'hui. C'est pas possible. Ouais. Et c'est fou. Moi, je trouve ça fou que... Il y a des gens qui aient autant cette espèce de talent à réussir à se maintenir, tu vois, à rester droit malgré toute la pression de la société, tu vois, que ce soit financière.
Mais ça, en réalité, il y en a très peu. Tu vois, par exemple, je pensais pendant, jusqu'à, je pense, l'année dernière, je pensais que le seul milieu inatteignable juste par travail pur, c'était l'art. Mais en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que... Je dis pas que j'ai percé ou quoi, mais juste, peut-être tu comprends qu'il y a une part de travail dans ça. Il y a un truc qui m'a profondément désolé, c'est, je sais pas comment dire, mais tu sais, il existe des sons commerciaux, il existe des films qui sont juste pour le grand public et tout.
Oui.
Et depuis peu, genre, il y a des mecs...
Avengers, nous te regardons très très fort.
On a tous pensé à la même.
Endgame.
Vraiment.
Non, mais tu sais, maintenant, il y a des artistes qui sont, tu sais, pour le grand public ultra mainstream. Mm-hmm. Et tu sais, ça m'avait mis une tarte en mode, les mecs, ils ont compris les codes de l'art, tu vois.
Ils les utilisent.
C'est brillant parce que tu te dis, en vrai, même des mecs pétés d'oseille, parfois, ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour avoir ce truc. Et ils ont rendu accessible ça. Des mecs comme, je ne sais pas si tu connais Orlinski, des mecs comme, comment il s'appelle, Koons, aux États-Unis, tous ces gens-là, ils ont compris
des
ça.
Peintres.
Et ils se font tirer dessus par le petit milieu artistique, entre grands guillemets, même s'ils n'ont pas tout à fait tort, parce que on va le dire ici parce que
on s'en bat les couilles. La merde.
mais ouais, je trouvais ça, en fait, c'est brillant d'une part, et en même temps c'est désolant parce que tu dis
c'est vraiment de l'art, du coup, tu vois, c'est, est-ce que du coup l'art,
mais ils ont joué sur ça,
simplement censé ne pas jouer dans les codes,
c'est ça.
Mais à ce niveau-là, est-ce que c'est plus de l'art, c'est juste de la production, tu vois.
Mais c'est ça, c'est, on parlait de Warhol. À Warhol, c'est ça. Voilà, c'est Warhol, ça. Il a dit, voilà.
Il a automatisé l'art, c'est quelque chose.
Et son espèce d'atelier qui s'appelle la Factory, je veux dire, c'est pas pour rien que ça s'appelle la Factory.
Ouais, non, mais maintenant tout le monde a repris ça. Évidemment. Tu vois, je te parlais de Koons là, le mec, il a, c'est son art à proprement parler. Tu prends une pièce singulière, tu te rends compte qu'il y a rien à exploiter.
Ouais.
C'est beau à la limite esthétiquement.
Enfin, c'est propre. Mais c'est propre.
Mais il dit quelque chose de plus fort. Il dit, vous voulez rendre l'art et l'intellectuel entre grands guillemets inaccessible. On va créer un filon qui va tomber directement sur les gens qui le veulent. Mmh. Parce que maintenant, les signes de richesse, c'est quoi? C'est des sapes, c'est des maisons et tout. Et maintenant, ils font un tableau ou une merde. Tu vois ce que je veux dire?
Mmh.
Et les mecs, ils ont compris ça. C'est brillant, tu vois.
Ouais, complètement. Mais du coup, ouais, c'est tout ce truc de jouer le jeu qui me semblait complètement fou et qui en fait a un impact majeur sur tout ce qu'on peut faire en fait. Et même, tu vois, dans le sport, par exemple, Cantona. Cantona, il a pas joué le jeu. Il a pas joué le jeu du foot. Cantona, il va se bastonner avec des supporters. Il en a rien à foutre. Il leur pisse au cul.
Il retombe. Ouais.
Personnellement, j'ai l'impression que je suis pas totalement sur la même longueur d'onde que vous. Parce que depuis tout à l'heure, vous avez une alchimie, tu vois. Et moi, et j'ai du mal à... non, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais moi, j'ai l'impression que je vois pas pareil que vous, en fait. Et pour moi, personnellement, jouer le jeu, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être... est-ce que c'est pas nécessaire, des fois, de jouer le jeu pour,
mais justement... C'est totalement nécessaire, mais l'instant où ça devient oppressant, angoissant, tout ce que tu veux...
Mais personnellement, ça moi, devient... c'est pas oppressant, tu vois.
Ouais,
parce que t'as que 18 ans.
Non, ça devient pas oppressant parce que peut-être aussi t'es dans ton beau domaine, tu vois. Mais je suis sûr que, honnêtement, j'aurais pas de chiffres à te donner, mais une très très grande part des gens, de la population, qui n'est pas du tout leur personne, leur personnalité, le milieu dans lequel ils ont grandi, n'est pas complètement dans ces codes-là, tu vois. Ce qui est fou, c'est d'étriquer ce jeu à des échelles infimes, tu vois.
C'est un moule aussi qui peut pas en fait correspondre à tout le monde, c'est ça que tu veux dire.
T'imagines par exemple des gars comme Félix aujourd'hui, ils ont je sais pas depuis quel âge, mais depuis qu'il est préadolescent, il sait qu'il veut faire du théâtre. T'imagines, il était né dans une autre époque, un autre pays. Ça, les codes, il aurait dû pareil les inventer aussi pour lui-même, parce que ça n'aurait pas marché. Il n'y a pas de filon, il n'y a pas de jeu pour lui, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est triste et oppressant. Après, une fois, si tu as vraiment trouvé ta voix, je sais pas, par exemple, tu es passionné de rhétorique, de management, tout ce que tu veux, et il y a tes études. De quoi ?
De porno.
Allez, ta voix, ta
non,
voix.
Non, je suis sûr, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire dans le porno, à faire du
certain,
porno de grande qualité.
Certain,
et moi, je déplore un petit peu parce que.
Un retour à l'auteur porno, tu vois.
Oui, mais réellement, mais pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas faire des vrais films porno, tu vois, qui seraient visibles, qu'on pourrait voir dans des salles. Tu sais, tu check, machin, les cartes.
C'est juste ça, hein.
Oui, mais c'est,
ouais,
en général, c'est du mauvais
encore,
porno.
Ouais, voilà.
C'est du mauvais porno, tu sais.
Nous, on veut de la même, belle.
On veut
créer des films aujourd'hui qui représentent beaucoup des actes sexuels ou de la nudité, mais qui sont des films qui sont même nominés pour
des films, mais c'est pas des films érotiques, tu vois. C'est des films érotiques.
Même
mais...
pas, il y a des histoires derrière.
Non, mais érotique, c'est une vraie histoire à la base. Non, mais ce que je veux, c'est pas, tu vois, je veux pas faire la vie d'Adèle. Non, moi, je veux faire un film pornographique qui se concentre sur la sexualité, tu vois. T'as tout un travail, je veux que ce soit. Tu vois, je veux qu'un réalisateur comme, je sais pas. Bah, Vinnie Griffin par exemple, celui qui a fait Drive, qui est passionné, qui puisse, tu vois.
C'est deux industries différentes, je trouve, moi.
Mais pourquoi pas les mixer?
Ouais, mais la personne, enfin, si lui il veut faire des films, s'il veut le faire, tant mieux. Moi,
non, mais évidemment, je
vais
pas le forcer, je vais pas dire bah 200 millions et tu me fais un bon film.
Après, si un réalisateur il est chaud pour faire à la
ça
fois.
Ça a dû exister, mec.
Ouais, voilà.
Oui, bah, dans les années 80, bien sûr, dans les années 80, t'as dû avoir des.
Mais je pense que ça va revenir. Je pense que ça va revenir.
Mais tu vois, vraiment, un truc. Où t'as pas honte de citer le nom des actrices, tu vois. Et où même où tu te concentres pas tellement sur une espèce de. Un porno forcément hardcore, tu vois, comme ce que les mecs demandent. Parce que par exemple, j'ai vu sur Pornhub, il y a une catégorie. Porno pour femmes.
Ouais, ça a émergé depuis peu.
Et je trouve ça génial. Et je trouve ça génial. Et
tu sais ce que je pense? Je pense que tu exposes au monde ton idée. Ouais. Et t'es en train de la copyrighter de fou.
Oui, oui,
ça
oui.
Ça fait
oui.
Depuis pareil, depuis ses
premiers adolescents
qui pensent à ça.
On est là pour ça, de toute façon.
Parce qu'on est en train de
copyrighter vos idées maintenant.
Voilà, c'est ça.
Allez-y.
Non, mais on s'en fout du brevet.
Alors, bah, je peux le dire, copyright, j'avais pensé à faire le Jeux Olympiques des Nains.
Oui, c'est vrai.
Ça fait depuis tant d'années que je veux le faire. On m'a dit que c'était discriminatoire et tout. Enfin bref, allez,
on n'a rien à foutre.
J'avais fait des démarches très sérieuses pour ça. Le jour où ça sort, vous savez à qui vous adressez.
Ils sont jaloux, c'est tout.
Non, mais clairement, mais on pourrait même mixer les deux. Oh là, comme un espèce de Super Bowl.
Là, ça devient dur.
Là,
c'est un Super Bowl du Nain. Un Super Bowl.
Tu aurais tellement pu être dans les codes, frère. Tu fais une soupe, tu fais 110
mètres. Et à la fin, t'atterris dans le Nain. C'est tout. C'est tout.
Non, mais tu fais le Super Bowl du Nain.
Mm-hmm.
Et tu fais plusieurs poses, tu vois. Et tu fais une espèce de spectacle théâtral du porno.
Là, ça va être physique, mec.
Mais mec, bien sûr que ça va être physique.
Tu sais à quel point
t'as
c'est
pas
physique
le droit
déjà
à
un tournage porno.
C'est fou, mais...
Tu veux leur rajouter un lancer de poids, tu veux un lancer de main, ça n'a pas de sens, tu vois.
Non, mais c'est deux personnes différentes, ça. C'est comme t'as, je sais pas qui, Imagine Dragons, qui va faire le truc au Super Bowl, la mi-temps au Super Bowl, ben on fait pareil. Et on amène les meilleurs. Les meilleurs, pas les acteurs.
Il a dit ah ok, sans conviction.
Non, mais non, mais si, parce que je vois ce que tu veux dire. Tu mélanges les deux, mais sans vraiment les mélanger. Tu,
mais en fait,
tu
je trouve ça.
Créneaux, en fait.
Non, mais je trouve ça dommage que le porno ce soit que du cinéma et que ce soit pas du théâtre, tu vois. Parce que en vrai, ça a tellement plus de.
Il se bat pour son école.
Non, mais c'est beaucoup plus palpable le théâtre porno. Je veux dire, t'es à 5 mètres, tu peux même limite recevoir un jet de mouille, tu vois. Je veux dire.
Oh putain. Ah ouais, mais venez, on fait un cinéma 4D alors.
Oui.
Le thème initial.
Le jeu. À la place de la Vienne Dynamique au Futuroscope, tu mets un truc plus 18.
Ouais, je sais pas ce qu'il y a de plus triste, qu'on parle de porno pendant 20 minutes ou du thème principal pendant 3.
Non, mais en fait, en plus, à la base, je voulais parler de Van Gogh. Mais.
T'as dérivé là. Hein,
comment tu peux.
Mais parce que le porno, c'est beaucoup plus notre génération que Van Gogh. Et que le porno, il y a des gens qui en ont rêvé depuis des décennies et des siècles, je veux dire, depuis que le cinéma existe.
Tu sais pourquoi je suis à fond derrière cette idée? Parce qu'en vrai, si tu réfléchis bien, le porno et le nu dans l'art, ça a influencé les peintures, la sculpture
mais
et
tellement...
tout, avant le cinéma.
Mais bien sûr.
Il y a des mecs qui ont dessiné pendant des siècles des meufs à Walp.
C'est et t'as rien, tu vois. Le peintre, je crois que c'est Raphaël,
c'est du porno,
qui était pédophile.
Non, c'est pas du porno, mais tu vois ce rapport au corps et tout, au nu.
C'est fascinant. Après, ouais, est-ce que c'est la même motivation?
Je trouve ça tellement froid.
Est-ce que c'est juste capter la beauté ou alors est-ce que c'est provoquer le plaisir sexuel? T'as raison, c'est deux trucs différents.
Mais il y a déjà de la mise en scène. Et mais même, aussi, même les gens futurs, c'est comme par exemple les mecs, tu vois, au cinéma, dans tous les arts, ils arrivent à te faire deviner un plan ou je sais pas, ils arrivent à te faire deviner ce qu'ils vont faire. C'est plus beau que de juste de le montrer de manière plan statique, tu vois.
Clairement.
Si tu vois une ombre avec, bah, par exemple, Hitchcock avec une meuf.
Oui, oui.
Voilà, tu vois.
Dans Psychose, par exemple, le voir le plan avec le poteau, c'est beaucoup.
Voilà. C'est beaucoup plus prenant que juste voir un plantage dans un cœur, tu vois.
Ouais, comme ce qu'on peut avoir dans Saw ou dans Destination Finale,
voilà,
etc.
Voilà, exactement.
Même si Destination Finale, il y a de la mise en scène.
Ouais. Bah, disons que Saw, c'est le porno du film.
Mais exactement. Mais d'ailleurs, on va raconter. Non, parce que, en fait, là, on a parlé du porno, mais maintenant, on va parler de Saw juste pour une scène qui m'a beaucoup marqué.
Allez,
c'est beaucoup plus de culture que moi, par contre.
Saw, c'est pas si fou.
Non, c'est pas de la culture.
Je connais Saw, mais genre, même depuis tout à l'heure, vous citez des noms. J'espère que je suis pas le seul.
Dire. C'est un appel à l'aide.
Alors bon, bah, là j'ai toujours rien à dire. Peut-être le prochain, je pourrais dire quelque chose.
Mais tu sais quoi, on fait un sondage et tous les gens qui ont zéro culture, on les invite. Et on parle de sujets.
Mais qui va répondre à ça? J'ai zéro culture.
Je suis une merde. voilà, donc moi oui. On va appeler ça le.
Ouais, la scène de Saw.
Oui, la scène de Saw. Et donc c'est dans je sais plus lequel. Il y en a des milliards de Saw. Il y en a 7 ou 8, je crois, voire plus. Et il y a un homme qui est collé le dos même avec des agrafes à un siège de voiture.
Mmh.
Et si la voiture accélère automatiquement, et il peut appuyer sur le frein, mais pour ça il faut qu'il décale, il décolle son dos, donc il l'arrache la peau et une partie de la chair de son dos. Et si il le fait pas, et ben la voiture elle se fracasse contre un mur et il meurt. Et s'il se décale, enfin s'il se décolle, et ben ça va l'arracher le dos, mais du coup il va pouvoir freiner, etc. Sauf qu'à l'autre bout, il y a une ficelle qui tient, enfin qui est au bout de la voiture et qui tient la mâchoire d'une autre personne. Donc, enfin, c'est dans le sens, il y a forcément quelqu'un qui meurt, tu vois.
D'accord.
Et la fin de la scène, si je me souviens bien, il se décolle une partie du dos, il n'arrive pas à freiner, la voiture se cogne contre le mur, ça arrache la mâchoire du gars.
Okay.
Et tu vois, c'est d'une telle violence, c'est d'une telle violence. Mais tu sais, c'est comme un gangbang, tu vois. C'est un truc que tu te dis, mais c'est pas envisageable humainement, tu vois. Et c'est des trucs qui existent uniquement grâce au cinéma, tu vois.
Ouais, ok.
Et c'est un truc. Peut-être justement, là tu vois, ça dépasse le jeu. C'est-à-dire que on a joué le jeu du truc, machin, et à un moment, bah, on se rend compte qu'il y a des bornes.
Plus loin, quoi.
Exactement. Et je trouve ça vachement intéressant de.
Mais est-ce que tu crois qu'on a vraiment balisé ou juste on a ouvert pour quelque chose d'encore plus.
Ah, je pense qu'on a ouvert
encore
et que.
Plus violent, en fait.
Je pense qu'on a ouvert et qu'il y a toujours encore plus à mettre. Bah, tu vois bien que dans.
Et c'est d'ailleurs, tu sais, tout marche par cycle, je pense. Et d'ailleurs, dans ce que tu viens de dire, je pense que les gens vont revenir à une forme de. Enfin, pas les gens, mais. Dans tous les arts, les artistes vont se rendre compte qu'il faut revenir à quelque chose de plus. C'est même pas plus doux,
mais de plus subtil. En fait. Mais c'est notre génération. Hein. Nous, on est clairement sur du subtil, c'était les années 80, etc.
Ouais, voilà.
Nous, on est beaucoup moins dans les trucs gore, etc. Ce que je déplore d'ailleurs, parce que tout le. Comme la scène punk, etc. Moi, je trouve ça dingue. Je veux dire, les mecs, ils vomissaient sur le public. C'est fou. C'est fou. Non, mais attends, on parle de jouer le jeu. Tu vomis sur le public. Le mec, il te paye les billets. Fait... Voilà, ouais. Ça c'est pas jouer le jeu. Et...
Ça veut dire je donne mon âme quoi. Ça.
Oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est Iggy Pop qui faisait ça. Iggy Pop, je crois qu'il chiait sur scène et il jetait.
Putain, mais il avait fait une scène, attends. C'était avec qui la chanteuse française là?
Oula, il y en a plein des chanteuses françaises.
Non, mais il avait fait un feat avec elle sur scène. Fou.
Ah ouais?
Bref, j'oublie.
Et bah, petite anecdote, j'ai un ami dont le père est saxophoniste et il a joué avec Iggy Pop.
Très stylé.
Et très
pareil,
stylé.
On a copyrighté cette info. Si t'as pas ça, t'es nul. On enchaîne.
Voilà, alors tous les podcasts amateurs, vous pouvez bien aller vous faire.
Enculé, c'est le mot.
Mais en fait, quand on parlait déjà de porno, je voulais changer de registre.
Vas-y, alors fais-toi plaisir.
Trop tard,
fais-toi
plaisir.
Change de registre.
Van Gogh, voilà. Le suicidé de la société. Livre d'Antonin Artaud. Sur jouer le jeu.
Mm-hmm.
D'ailleurs, il y a un film qui est à voir avec Willem Dafoe, où il joue Vincent Van Gogh, qui s'appelle At Eternity's Gate, un truc comme ça.
Mm-hmm.
Et c'est un film ultra sensoriel. Et en fait, on voit dans ce film à quel point Van Gogh a été méprisé quoi, en tant que peintre.
Ah non, mais Van Gogh, il a pas vendu jusqu'à sa mort.
Il a vendu un tableau. Un tableau.
Il a vendu un prix
irrisible. Par son frère. Voilà. C'est vraiment histoire
c'est
de quoi. Famille.
C'est un peu comme
ce
podcast.
C'est comme le podcast ou comme mes recueils de poèmes que j'ai imprimés en seconde et que j'ai vendus à mes potes.
Ouais.
Voilà, j'ai toujours.
Moi je fais la même chose, je vends mes dessins, je vends mes trucs, je dis ça vaudra de l'oseille plus tard.
C'est très bien.
Bah j'ai encore la moitié.
Il avait raison, il est allé jusqu'au bout de ses rêves, même si ça n'a pas marché. Et c'est ce qu'il voulait faire, donc il l'a fait, et il ne faut pas avoir plus loin.
Mais pour dire ce que tu vois, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de rentrer dans le moule, tu vois? Lui, il n'est pas rentré dans le moule, et ça l'a sinon rendu fou, en tout cas, ça l'a blessé profondément. Et ça, Van Gogh, et ça l'a amené à faire des trucs débiles.
Je veux dire, se couper l'oreille, notamment.
Ça, c'est parce qu'il était alcoolique et drogué.
Ouais, mais la conséquence d'alcoolique.
Bien sûr. D'accord. Mais voilà, tu vois, je veux dire, dans le sens, tu joues pas le jeu, et forcément, tu vas t'enfermer dans des espèces de boucles infernales, ouais, quoi.
Comme... C'est l'extrême, mais je comprends ce que tu veux dire.
Ouais, comme Juice WRLD, comme Lil Peep, XXXTentacion, tous ces mecs-là qui, au début, jouaient le jeu, et qui, progressivement, ont décidé de plus jouer le jeu, et voilà ce que ça a donné.
Aussi, il y a un truc qu'on ne doit pas sous-estimer, c'est que les jeux de nos sociétés actuelles, je ne sais pas, de l'éducation, du taf, de ta famille, tu sais, tous les codes sociaux qu'on a imprégnés, c'est le résultat de...
Siècles.
Ouais, c'est le résultat de siècles, et si ça en est là, c'est aussi parce que ça... C'est pas que ça a tenu, mais c'est ce qu'il y a de plus tolérable, peut-être.
Mais c'est ce que les gens disent avec la société capitaliste.
Genre, ouais, c'est ça.
C'est la meilleure des choses qu'on a à faire. Tu dis ça parce que tu es riche, enfoiré.
Voilà. Mais en fait, je suis d'accord dans le sens où si aujourd'hui la société tient telle qu'elle est, alors qu'on paye des gens au SMIC horaire, c'est parce qu'on les endort. Ils pensent pas aux jeux auxquels ils jouent. Si tu réfléchis bien, un mec qui est employé, il gagne 1200 horaires, tu lui demandes pourquoi il en est là, ou est-ce qu'il te répond pas spontanément, il dit putain, l'autre philosophe de mes couilles, il me casse la tête, tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'ils sont endormis total. Ils pensent pas à se dire, ok, je vais réinventer, ça prend trop de temps d'énergie. Ouais,
je suis d'accord. Bah, je suis d'accord en fait.
Mais... non, mais je break là-dessus.
Non, mais je suis d'accord, mais après, la société non plus te prive pas de faire tes propres choix. Si tu veux suivre ton propre chemin, tu peux. Il n'y a rien qui t'en empêche.
Dans l'absolu, oui.
Tout ce qui compte, c'est...
C'est pas physique.
Après, bien sûr que c'est le résultat. Elle va pas t'empêcher de ton éducation, de la société dans laquelle on est tous. Après, peut-être que la société, elle est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on tient le mieux. Je veux dire, de base, les humains... Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas atteint une paix aussi durable. Bien sûr qu'elle est payée en guerre. C'est peut-être aussi parce qu'on a réussi à construire quelque chose en communauté et qu'on a réussi à faire société... Et du coup, c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de conflits, je pense. Après, oui, ça matrixe les gens. Mais ça t'empêche jamais, dans une société libre, en tout cas, on a de la chance de vivre dans un pays libre, ça t'empêche pas de suivre ta propre voie, si tu veux.
Ouais, mais dans l'absolu, par exemple, si tu veux, je sais pas, un mec, un trentenaire qui se casse la tête du jour au lendemain, il craque complet, le mec.
Ce qui arrive de manière extrêmement récurrente dans la société actuelle, preuve que l'on est peut-être à la fin d'un cycle.
On sous-estime ça. Mais ce que je veux dire, c'est que. Le bagage social, le bagage culturel, émotionnel, pornographique, tout ce que ça nécessite comme énergie et comme ressources, c'est pas fourni par notre système, tu vois ce que je veux dire? Un mec, tu lui demandes, un mec totalement naïf, tu lui dis, je veux faire du théâtre, enfin, il veut faire du théâtre et tu lui dis comment faire. Si tu lui dis, va à l'école, ils vont tout apprendre. S'il est crédule, il va dire oui, mais le mec qui est reconnu comme tel, qui a percé dans le théâtre et tout, il va te dire, mais toutes les facultés qu'il faut pour, tu ne peux pas l'apprendre autre que par l'expérience. Et un mec qui est enfermé dans sa matrice quotidienne, il ne peut pas sortir de ça. Il ne peut pas sortir de ça. Il a des responsabilités familiales, économiques. Quand il part en couille complet parce qu'il décide de faire des sculptures d'hippopotame, s'il n'a pas l'oseille et le soutien émotionnel pour, ça devient tout de suite très, très compliqué, tu vois. Certes, il peut se balader et se dire, ok, vas-y, je vais réinventer. Ou... Tu vois, il peut avoir une bonne démarche, mais à terme, il se fera bouffer par des obligations. En vrai, les chaînes, elles sont invisibles, mais elles sont là, quoi.
Et c'est pour ça que les grèves ne tiennent pas, en fait. C'est parce que c'est parce que on se rend compte qu'il y a...
On dit liberté d'expression, mais le mec, il doit nourrir sa famille.
Exactement. Et voilà, et tu veux dire liberté d'expression jusqu'à ce que t'aies plus rien à bouffer.
Voilà, c'est ça.
Okay,
c'est...
Alors, je vais vous poser une question alors. Si vous pouviez refaire le monde, qu'est-ce que ce serait alors?
Que des blancs.
Voilà, parce que la question c'est ça au final.
Et c'est là que je m'en vais, les gars.
Il y a des choses à critiquer, tu vois. Je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points. Bien sûr qu'on matrixe les gens, bien sûr que quand t'as des responsabilités, c'est compliqué de suivre ta propre voie, et ça je comprends, tu vois. Ouais.
Pourquoi tu rigoles, toi?
Je dis qu'on va devoir annuler 45 minutes d'enregistrement parce que cette phrase.
Quelle phrase, t'as dit quoi?
Non, c'est que... bon, on va pas la
réécouter. Allez, bon, bah, si, je la réécouterai.
Si, bah, si on faisait.
Je suis pas ami avec
si
cette
si je peux faire un nouveau monde, et ben je mettrais. Non, j'ai dit que je mettrais les blancs au service des noirs. Pour qu'on rattrape les 400 ans.
Antidérapale de ouf.
Mais ça fait deux fois. Non mais ça fait deux fois parce que le premier épisode, déjà, j'avais dit un truc par rapport aux femmes, et du coup on pouvait me prendre comme un misogyne, et du coup ça va faire un running gag où en fait je dis
il va falloir avoir de l'inspiration.
Ah ouais, non mais on va le trouver ça. Du coup on va rattraper mon poster. Oui.
C'est une private joke.
Private joke, vous ne pouvez pas le voir, dommage.
C'est fini. Et... J'ai écrit Eric Zemmour sur un podcast.
C'est, tout. C'est tout, c'est tout.
Ah non, t'as fait saturer le micro, putain.
C'est pas grave, ça se résout, ce genre de soucis.
Non, mais voilà,
du coup, laissez-moi vous poser une question simple.
On t'a coupé, ça va.
Vous avez beaucoup de choses à dire sur la société qui sont tout à fait vraies, même si je pense que c'est pas aussi simple que ça. Mais comment vous imaginez un monde libéré de ça, alors? Comment est-ce que vous imaginez un monde meilleur, alors?
Moi, quand je visualise ça, je pense pas du tout au monde. Genre, une personne n'est pas capable de ne serait-ce de soutenir 10 personnes, c'est énorme.
Ah, moi, je suis possible.
Ou deux, parce qu'il est omnipotent et omniscient. Mais moi, je visualise que par rapport à ma propre life, tu vois. Je sais que le système nous endort, tout ça, nanana. Mais moi, dans l'absolu, si c'est pas individualiste, parce que je pense que c'est juste comme ça, c'est... Tu dois d'abord sauver, c'est pas sauver ta tête, mais tu dois d'abord sortir de l'eau avant de sortir les autres, tu vois ce que je veux dire? Et en mode, je pourrais pas conceptualiser ou visualiser genre une nation entière comme je le pense, parce que moi je pense pas comme
Félix. Pourquoi vous arrivez bien à conceptualiser la nation actuelle?
Je vais expliquer quelque chose. En fait, il y a quelqu'un qui a très bien parlé de la société du spectacle, qui a un terme de guide de bord, c'est Vald. Ouais, grand écart philosophie rap. Vald, il a dit, moi, j'ai aucune prétention politique ou quoi. Je dis juste qu'on doit serrer les coudes et céder entre nous. Et je pense que c'est ça que Joanie veut dire. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut raisonner. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec le confinement qu'on n'a plus rien à attendre des politiques. On n'a plus rien. On n'a plus rien à espérer. C'est-à-dire, c'est bon, c'est le comble du dégueulasse. Masque, etc.
Je vais revenir au terme initial parce que je suis un brillant orateur. On ne peut pas jouer à leur jeu parce qu'on ne connaît pas leurs règles.
Allez.
Yes,
c'est validé tout de suite.
Dab auditif.
On a un bloc de description.
Et non mais c'est vrai, et je pense que c'est en fait on parle et on essaie de faire des actions, par exemple. Et je vais parler de moi, c'est affreux. Moi, je suis un égocentrique,
c'est
égoïste.
C'est ce que tu connais de mieux. Donc.
Exactement, c'est ce que je connais de mieux, et voilà. C'est ensuite on pourra peut-être élargir. J'ai beaucoup parlé avec mon beau-père de justement de tout ça, etc., et de des revendications, je sais pas, mais en tout cas de ce qui me chiffonnait, quoi. J'adore ce verbe, chiffonnade de jambon. Et en fait, il m'a dit, mais en fait, tu parles, mais derrière, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, est-ce que tu donnes à des associations? Est-ce que tu manifestes vraiment? Et là, j'étais un peu comme un con, je me dis, non. Et du coup, il m'a dit, je sais pas, fais une pièce de théâtre là-dessus, je sais pas, écris quelque chose. Monte un parti, bouge-toi, quoi.
Et là, tu te rends compte des ressources qu'il faut, quoi.
Et là, je me suis dit, ok. J'ai appelé le directeur du conservatoire, et je lui ai dit, je te propose mon idée, j'écris une pièce de théâtre sur l'après-confinement et sur l'actualité. Et voilà, et je te fais ça, et je te recontacte à la fin de la semaine prochaine, je te l'envoie. Et il a dit, d'accord, super initiative, etc. Donc déjà, super bonne réaction, voilà. Tu vois pas du tout le mec qui se braque.
Encourageant, quoi.
Exactement. Et du coup, je lui dis, ok, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux représenter l'idée d'une société? Ou alors, est-ce que c'est judicieux que je parle de mon avis uniquement? Et je me suis dit que j'allais plutôt essayer de calquer ce que la jeunesse, comment la jeunesse prend ces choses-là, tu vois, et comment est-ce que nous, on voit le confinement, comment est-ce que nous, on voit la politique d'une façon relativement naïve. Et je me suis mis à écrire, et au bout de 5 jours, j'avais écrit 10 000 mots, j'avais fini la pièce, je l'envoie au directeur. Enfin, avant, j'avais passé par un ami du conservatoire qui est mon lecteur et qui m'avait donné beaucoup de conseils, etc. Et la pièce, je lui envoie, etc. Et c'est avec un langage extrêmement oral, quoi. C'est très, très oral. Enfin, il y a des nids de ta mère, il y a des ta mère la pute.
Tu l'as écrit comme ça.
Je l'ai écrit vraiment de façon orale pour que ce soit pas de l'actualité, mais vraiment quelque chose qui passe.
Mais du coup, actuel. Est-ce que la chose qui serait la plus dure à faire, c'est pas tant d'avoir des idées, parce que tout le monde a des idées pour remédier à ses propres problèmes et tout, mais c'est justement ce travail de projection de dire que ça va servir à tant de monde.
Exactement.
Parce qu'en réalité, si tu prends n'importe quel problème, dans ce qu'on vit, là, tu te rends compte que dans un rayon de 100 km, dans même quoi, 5 km carrés,
100 km à vol d'oiseau,
exactement,
petit si clin d'œil au gouvernement,
un de plus,
allez,
ouais, dans un rayon de 5 km carrés, les gens ils ont tellement de même pas d'avis divergents, mais de problèmes divergents, c'est à dire qu'entre ceux dont tu dois t'occuper dans l'instant T et ceux qui vont servir la nation entière, c'est infaisable à faire. C'est pour moi, j'ai jamais été comme Fefe, ultra critique des politiques et tout. Parce que j'ai. Enfin, pas que tu sois tant critique que ça, mais.
Je les encule bien.
Un petit peu quand même.
Mais. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Tu te rends compte, t'es à la tête, surtout en France, où on a cette culture un peu de l'homme suprême, tu vois.
De l'État-providence.
Voilà, exactement. Ouais. Et bah, il faut quand même penser à l'échelle d'une nation. Et t'es né dans Paris Centre, t'es allé dans les meilleures écoles où il y a que des mecs qui ont des valeurs de fils de pute pour monter.
Et des problèmes de blancs privilégiés.
Exactement. L'échelle d'une nation, alors que t'as toujours pensé à une échelle individuelle, c'est un
même
travail.
Même si tu le penses au mec qui est juste nécessiteux de pouvoir nourrir sa mif et ses gosses, c'est infaisable à concevoir, parce que toi, quand t'es dans des problèmes, bah, la première, et c'est naturel, instinctivement, tu te dis, faut que je résolve les miens. Et tu te dis pas, vas-y, faut que ça contribue à tout le bâtiment, juste.
Mais après la différence, tu vois, j'ai pas envie de les plaindre, parce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu faire ça. Tu vois, je veux dire, tu te présentes en tant que président.
Après, tu peux blâmer les intentions, mais même.
Mais justement, si je pense que des fois, il y a des gens à qui ça aiderait d'aider les autres à l'échelle de la nation, tu vois. Si je peux avoir un impact positif sur le plus de monde possible, sur la plus grande échelle possible, c'est ça que je vise, tu vois.
Ah non, moi je pense d'abord à l'expansion de mon empire financier.
Voilà.
Non, 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 mais bien sûr. Mais en fait...
Humour anglais.
Non, mais c'est simplement... Peut-être que ce serait plus logique de créer un gouvernement où tu crées une certaine mixité, je veux dire, au niveau des origines. Ou peut-être que là... Évidemment que peut-être que... Il y a beaucoup de gens qui ont des excellentes intentions et... qui veulent le bien du peuple, même si j'y crois pas trop. Hein,
mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte.
Bien sûr qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais peut-être que tu peux essayer de créer un gouvernement plus complet, avec au-delà simplement des gens qui ont fait des grandes études à Paris, chercher des... Tu prends un paysan, tu prends un truc comme ça. Et là, tu aurais peut-être une oligarchie.
Mais en Suède, ils font ça, c'est le gouvernement par les experts.
Ah, oui.
Pour chaque domaine, ils mettent un expert. Par exemple, l'agriculture, c'est un farmier.
C'est excellent. C'est
très pertinent parce que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent.
Et je dirais, oui, ils sont directement
alors
concernés.
Que là, c'est les gens qui vont faire l'ENA qui vont venir, tu vois. c'est un petit peu débile.
C'est très intellectualisé, en fait, la façon de concevoir la politique par eux.
Alors que finalement, c'est peut-être pas si simple que ça. Il suffit d'avoir un minimum de savoir parler aux gens et de connaître le domaine.
Et d'expérience du terrain.
Il y a autre chose aussi qui peut paraître erronée. Mais ces mecs-là qui sont surentraînés dans des grandes écoles à Paris, est-ce qu'aussi ils doivent, on en revient au truc, jouer le jeu, mais avec d'autres personnes, tu vois ce que je veux dire, d'autres pays, d'autres forces. C'est-à-dire qu'un mec, si tu prends le gouvernement suédois, c'est ça, qui a établi son gouvernement par expertise. Bah, je ne sais pas s'il sera de taille, entre guillemets, à affronter, entre grandes guillemets, encore plus. Tu vois les autres pays.
Guillemets avec les doigts, toujours, notez-le.
C'est technocratie. Audio-description. De mémoire. Technocratie, je crois.
C'est pas ce que tu viens de regarder sur ton téléphone.
Non, non, bah, j'allais chercher.
Moi, j'ai failli fermer quand j'ai été vraiment.
Mais non, il faut pas. Les gens, ils le voient pas, faut tout dire.
Il faut qu'ils puissent, tu sais, avoir. Il faut faire face à un mec, faire face à Angela Merkel, tu vois ce que je veux dire.
Angela Merkel, waouh.
J'ai dit quoi?
Angela
Merkel.
Angela.
On lui passe le salamé.
Le salam aleikum.
Ouais, il faut, tu sais, il faut savoir bagarrer avec un chef d'État, avec toutes les biais psychologiques qu'il a dans la tête.
Tu veux dire que c'est ça qu'on apprend aussi dans ces écoles?
Bah non, t'apprends à te bagarrer, t'apprends à faire un débat, t'apprends la rhétorique.
C'est ça le problème.
T'apprends à sucer des bites.
C'est que la politique, c'est devenu
fou, quoi.
C'est devenu un domaine à part entière, alors que ça devrait être des domaines séparés. C'est pour ça qu'il y a des ministères, tu vois.
Ouais.
Et en fait, c'est devenu comment sans fâcher les autres, c'est devenu de la diplomatie, de la politique, alors que peut-être qu'il faudrait revenir aux essentiels et juste parler de l'un à l'autre. Pourquoi tu me touches la cuisse, Félix? Tu vois, entre deux experts, en fait. Ce serait peut-être plus efficace que
c'est pas possible de
mettre le voile de la politique.
C'est pas possible parce que le pouvoir est quelque chose qui est trop attirant. Tu t'en rends compte?
Il y a des mecs pauvres qui aspirent encore au pouvoir. Il y a des politiciens qui sont plus pauvres qu'il y a des chefs d'entreprise.
Et alors, c'est quoi le rapport?
Et même, il y a des chefs d'entreprise qui sont plus motivés par le pouvoir que par l'argent.
Je vois pas le rapport avec...
Non, mais dans le sens que tu peux pas mettre le voile sur la politique, parce que la politique te donne accès à quelque chose qui est immense et que tout le monde désire. Juste, voilà, c'est le pouvoir. Et ça, tu t'en rends compte dans la sexualité des gens. C'est-à-dire qu'on introduit quand même toujours un truc de dominance soumis. C'est quand même...
Allez.
Non mais je suis désolé, c'est la sexualité...
Ce retour au cul, putain, mais... c'est infernal.
Mais non, mais c'est...
Ah là là.
Non, mais c'est simplement pour vous dire que c'est...
Les inspirations, ça passe à toute life là-dessus.
Non, mais c'est extrêmement ancré en nous. Et même, tu vois ça, je veux dire, bon, bah, tu vois, t'as un prof et des élèves, je veux dire, la notion de pouvoir, elle est extrêmement ancrée en nous. Et c'est quelque chose de trop désirable, le pouvoir. C'est trop... Il y a trop ce désir d'avoir le pouvoir sur des gens, c'est trop agréable. Tu vois, tout le monde rêve de pouvoir contrôler des gens, tu vois, ou d'avoir un génie. Et dans le
mais
sens
ça dépasse ça, encore ça, le machin. Pouvoir. J'ai oublié qui a inventé ce terme, mais bref, un auteur assez connu.
Francky Vincent.
par exemple, si on lui prête ce terme, il va être... il disait, en fait, les gens qui aspirent à de grandes choses démesurées, qui ont une ambition folle, ben en fait, ils sont très dans ils sont dans un projet d'immortalité, il appelle ça.
Ah, c'est pas Machiavel qui dit ça?
Non, c'est pas Machiavel, c'est un autre. J'ai oublié son nom, qu'importe.
C'est un philosophe ou c'est un auteur
Je sais plus. Bref, j'ai entendu et ça me paraissait mais tellement véritable, en fait. Parce qu'un mec comme, je sais pas, de Poutine. Toute époque... De Poutine des mecs comme Napoléon, des mecs comme par exemple Bolloré, tu vois ce que je veux dire, dans tous les domaines, un mec qui aspire au pouvoir et à la dominance, c'est qu'à un moment il veut marquer, tu vois,
quelque Louis XIV, tu vois, ou un mec comme Louis XIV, ou comme Genghis Khan.
En réalité, si tu prends Napoléon, si tu t'es arrêté et qu'il n'était pas allé au Portugal, et bon, aujourd'hui,
c'est la moitié de l'Europe. Qu'il se souvienne de moi le plus longtemps possible dans les livres d'histoire après ma mort.
Ouais, c'est le souvenir, et puis surtout, c'est bête et méchant, mais c'est de la légende, quoi, c'est de l'ordre de l'image, quoi.
Mais ça, et ça,
c'est triste qu'un homme, ça fait ça. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas ce truc de vas-y, bah notre image, elle marquera les gens qui nous ont connus peut-être une ou deux générations après. Et pas les livres d'histoire.
C'est pas si important que ça, parce que ta vie, tu la vis, puis après tu meurs, et tu pourras pas constater. Ouais,
mais ça, c'est quelque chose d'épicurien comme vision, c'est-à-dire la mort, ça me concerne pas parce que je vis, puis une fois que je suis mort. Donc, c'est juste le corps qui compte, et la personne en soi n'a aucune réalité. C'est ça, mais il y a plein de gens qui ne voient pas ça. Et c'est aussi...
Je pense que c'est une faute vraiment vulgaire des élites. Parce que le mec, comme je te dis, on reprend un exemple vraiment ultra cliché, mais le gamin qui a grandi à Paris 16 et qui aspire à devenir futur président, je suis pas sûr qu'il ait vraiment le sens du devoir et le sens de... Tu vois, je pense pas que ce soit la personne la plus altruiste et empathique qui soit, tu vois.
Mais pour être vraiment altruiste et empathique, faut avoir compris quelque chose de la pauvreté et de la misère, tu vois.
Je pense en fait, c'est ultra paradoxal et en même temps, ça l'est pas tant parce que... Comme je te dis, il y a le rapport de force, il se fait partout, quoi.
Mais c'est dans...
Nous,
c'est
on pourrait pas discuter avec un politicien, même s'il est déjà coupable, on pourrait pas discuter avec lui, parce qu'il nous mettrait échec et mat à chaque
réponse. Ça dépend sur quel dossier.
Enfin, au final, il faudrait simplifier la politique pour la rendre plus accessible à n'importe qui. Mais il faudrait que ça soit, comme tu dis, de manière globale, parce que du coup, il y a toujours des rapports de force
après. Mais on le veut pas, ils veulent pas rendre la politique facile. Et c'est comme la philosophie.
Et même si tu la simplifies, tu la rends accessible à tout le monde. Ça peut paraître un peu méchant ce que je dis, mais un mec qui vit juste dans sa réalité.
Ça va faire les États-Unis. Faire les États-Unis.
Ça va diviser, ça va faire des mini communautés au sein de la nation, quoi. On passe.
Je suis pas convaincu.
Mais c'est exactement ça, et c'est un peu le cas aussi avec la philosophie, c'est-à-dire qu'il y a un truc hyper élitiste avec des termes très complexes, et tu te rends compte aussi qu'en politique c'est des termes très complexes, très particuliers,
c'est minutieux, quoi.
Et c'est fait exprès pour
exprès pour que ça reste parce qu'elle m'a fait rire, et je voulais pas être seul à rire dans ma chambre
pour que ça reste justement pour cette certaine élite, et ouais, c'est extrêmement vicieux, et tu te rends compte que en fait tous les domaines intellectuel, parce qu'en fait la politique, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'uniquement intellectuel. Tu vois qu'ils en ont rien à foutre de la réalité du peuple, ils en ont rien à foutre. Ils attendent que la police y mate ça, puis ensuite on repart sur nos beaux projets de retraite qui ne valent rien. Sachez-le.
Coup de gueule.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Au pire, on fera un épisode entier coup de gueule gouvernement Félix. Et ça va durer 3h30
de zapping coupé.
Mais je pense que j'ai plus à redire, parce qu'au fond le gouvernement, c'est un ensemble de personnes, et c'est plus contre les gens que j'en ai que contre le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est juste des gens qui ont décidé de jouer le jeu, tu vois.
J'en parlais il y a... Putain, c'est un truc de fou là.
Pas de vulgarité dans cette émission.
Pardonnez-moi. Oui, bien sûr. Pardonnez-moi. Enfin, je vous prie.
Maman, bisous d'ailleurs. Elle a écouté mon premier podcast et elle a dit: tu dis trop, je m'en bats les couilles. Félix, il encule et tout.
Ouais, j'en parlais récemment avec ma belle famille d'ailleurs. Wow. Et je disais, ouais, c'est fou d'entretenir une discussion avec sa belle famille. Et en gros, je leur disais, mais moi, ce qui m'insupporte, c'est qu'en permanence, les gens, ils se plaignent, ils sont, tu sais, dans la revendication constante.
Des Français, quoi.
Français de base. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de rigueur envers soi-même, tu vois. Genre, les gens, ils gueulent en permanence à ta table en repas de famille. Mais une heure après, ils vont chaber Netflix.
Ça, c'est très français, ça.
Mais ça, c'est mondial maintenant. Mais il y a quelque chose.
Mais non, tu regardes en Asie, je suis désolé, mais en Asie, ils sont beaucoup plus.
Mais c'est autre chose.
Il y a un fusil derrière la nuque, mec.
Mais non, pas. Bah, en Japon,
pas dans tous les pays, par exemple, genre en Chine.
Japon, Corée du Sud, non, il y a plus en Chine que t'as un fusil derrière la
nuque. Ouais, non, il y a le Bhoutan et la Thaïlande, etc.
Non, mais... non, bien sûr, mais c'est très occidental, je trouve, comme, oui. Comme truc,
oui.
En vrai.
Ouais, ouais. Non, mais moi, ce qui m'insupporte, c'est que... Je dis pas, évidemment, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, je dis pas que c'est simple et évident, parce que ça nécessite tellement de choses de s'affranchir totalement, et en réalité, je pense qu'on s'affranchit jamais réellement, parce que t'as toujours besoin de la communauté, et t'es toujours dans ce truc un peu... T'as besoin de tribalisme, en fait, t'as besoin d'appartenir aux gens, tu vois. Mais ça m'insupporte dans l'autre sens, en mode, qu'est-ce que t'apportes vraiment? Tu te plains, tu revendiques, mais hormis filer ta cotisation sociale et tes impôts, tu fais rien de plus, quoi.
C'est ça, avant de reprocher aux autres des choses, essayer de travailler sur toi-même.
C'est comme un mec qui veut...
toujours adopter la rigueur que tu veux imposer aux autres.
Exactement,
sinon,
exactement. Il me semble que c'était Mandela qui disait ça. Il disait la seule forme d'autorité est la plus, c'est pas puissante, mais la plus, comment t'appelles
belle,
ça,
enfin, rigoureuse,
la plus efficace, on va dire, c'est l'exemple. Un mec qui c'est là, ça peut être très mal interprété ce que je dis, mais un mec comme Hitler, par exemple, il a pris, ouais, on est chaud là.
Non, mais on s'en bat les couilles, on a dit bien pire.
Ouais, Adolf Hitler, non, c'était le meilleur homme politique d'Allemagne.
Ta gueule. Non, mais tu vois, ce mec-là, il c'est la pire des salopes, une pire des putes, oui. mais il avait compris que il avait compris l'intelligence sociale, il avait compris comment être un exemple et tout. Sa seule réelle intelligence à Hitler, c'est qu'il savait soulever des foules.
Ouais. Exactement.
Soulever des foules.
Ouais. Mais c'était un excellent orateur. Enfin, il avait tout pour... Enfin, c'était le... Il avait tout pour devenir le leader, finalement.
Oui, mais tu te rends compte que ça s'est pourtant joué à de la chance, c'est-à-dire que... Malgré toutes ces qualités-là, etc. Enfin, c'est très très complexe. Hein. C'est très très complexe ce qu'on touche là. Mais évidemment que c'est l'exemple et c'est
l'exemple. Et il y a personne. Il y a tout le monde qui veut imposer son autorité, mais personne n'est l'exemple.
Bouddha. C'est voilà. Bouddha, c'est exactement ce qu'il disait.
On va intégrer des références un peu diverses et je vais citer Rof qui dit qui est l'exemple. Voilà, vous pouvez aller écouter ce son, il est magnifique, c'est un classique du rap français.
D'ailleurs, John Rashid qui a sorti une vidéo sur Rof.
Putain, mais les timings.
Mais attends, mais...
T'as cité un youtubeur, non, John Rashid, t'es là, je m'incline.
Le youtubeur lyonnais.
6-9 la trique.
Exactement. D'ailleurs, Rof, très très bon rappeur, mais oui, mais c'est exactement ça. En fait, Bouddha, c'est en fait, et la philosophie, l'anti-philosophie, ce qu'on appelle les pré-socratiques, qui sont en fait parfois des post-socratiques, mais qui sont en fait à l'opposé de l'idée socratique, donc quelque chose, on dépasse le corps, c'est l'idée de l'âme, etc., immanente. Et en fait, tu as toute une partie de la philosophie qui a été délaissée et donc dont on a détruit les œuvres parce qu'eux, ils pensaient le corps d'abord. Et c'est les philosophes qui disaient, ben voilà, on s'impose une rigueur à soi dans l'idée, non pas de donner des leçons, mais de montrer le résultat de notre pensée, de l'effectivité de notre pensée. Et on montre ce que ça donne aux autres et ça permet de délivrer la pensée. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est fait il y a 5000 ans en plus. Et non, mais qu'est-ce que je raconte? Il y a 15 siècles.
Ouais. Tout ça pour dire juste que en fait, c'est insensé de dire à quelqu'un « fais ça quand tu n'es pas au-dessus ». Quoi.
Exactement.
Enfin, c'est même pas au-dessus, c'est « tu représentes quelque chose ». Un mec comme Macron, si tu observes bien, on lui a prêté plein de choses comme « ouais, c'est un ancien un peu, qui est véreux de Rothschild, tout ça, nanana ». Mais en réalité, sa vraie forme d'intelligence, et beaucoup de Français l'ont oublié maintenant, c'est la représentation. Tu l'as vu faire, faire des discours, il a été meilleur que les autres candidats. Bah, tu l'as vu en débat, il a été meilleur que les autres. Fin de l'histoire.
Ouais.
Tu te rends compte que...
Ça dépend que de ça, finalement.
Et ça rejoint le sujet initial. Mais qu'est-ce gars, que je suis bon.
Et quand je pense que, en plus, à la base, Brice, il a dit qu'il allait passer pour faire un sujet complet.
Il joue...
Ah non, j'ai juste dit que...
Je relirai le message à la fin.
Il joue à un jeu où c'est le maître.
Je n'ai jamais dit que c'est...
Si, je te l'ai dit.
Tu parlais des soirées.
Non, je t'avais dit jouer le jeu.
Putain, non, tu vas parler des soirées, tu vérifies.
T'es sûr? On vérifiera. On mettra l'image. C'est faux, putain. Je vous mens totalement.
Quelle image, c'est un podcast.
J'adore le monde. Voilà.
Mais non, mais moi, je voulais juste dire un truc par rapport... Enfin, je sais pas pourquoi, c'est très évident comme truc, mais la philosophie, en fait, tout ce dont on parle maintenant a été déjà pensé il y a des milliers d'années, tu vois.
Ouais,
et tu te dis, mais c'est incroyable de se dire que l'humanité, depuis tout ce temps, a fait ses réflexions et que rien n'a changé.
Rien n'a changé.
Non, il n'y a pas rien qui a changé, mais les réflexions qu'on a c'est aujourd'hui, que... c'est sur le monde actuel, et pourtant, on peut les retrouver sur le monde d'il y a... Il y a des milliers d'années.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est quand même fou comme.
Mais peut-être ça, parce que le combat en fait, principal qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est peut-être juste le combat d'affranchissement. En fait, à mon avis, je pense qu'il y a des milliards de choses qui ont changé depuis l'époque de Socrate, tout ça. Mais le combat reste le même, c'est-à-dire s'affranchir par l'esprit, mec. S'il y avait un mec qui avait la formule, serait.
C'est super dur, c'est très très rare. Ça. Bah, on parlait de Mandela. Mandela, voilà, qui a réussi à se libérer.
Ouais, mais même Pas totalement.
Bah oui, pas parce totalement.
Que si tu réfléchis bien, regarde, Brice, ça peut paraître des exemples un peu comment t'appelles ça ?
Branle-couille.
Voilà. On va s'assifier la tête. Mais si t'as vu la manière dont comment on est habillé, comment on parle, comment on n'est pas totalement affranchi, tu vois ce que je veux dire ?
Évidemment, évidemment.
Même nos idées là, je suis sûr, on serait né peut-être 100 km plus loin, ou en Auvergne. Ça change vraiment les mentalités, l'Auvergne. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, complètement, complètement. Mais c'est cette idée-là. Et en fait, je pense que. Mais il y a. Je vais citer des exemples peut-être pour inspirer les gens. À réussir à peut-être à s'affranchir, parce que je pense que c'est ce à quoi moi j'aspire. En tout cas, c'est dans les années 70, pendant la guerre du Vietnam, le moine qui s'est immolé et qui n'a rien dit.
C'est la photo qui tourne sur...
Non, c'est pas une photo, c'est un fait.
Il y a un mec...
y a un fake.
Non, il y a pas un fake. Ok, j'ai cru un fake. Il y a un moine immolé.
Mais voilà, donc la première fois, c'est arrivé dans les années 70 et il s'est couché, il s'est assis. Ouais. Il s'est mis un bidon d'essence,
il s'est allumé. Il y a la photo.
Et il n'a pas bougé. Mais ça sert à rien, ils ne le verront pas, les auditeurs.
Non, mais je te la montre juste pour que tu me dises si c'est bon ça.
Mais je sais pas, moi j'ai lu, c'est une news, c'était dans les. Je sais pas, il me semble que ça a été filmé. Mais en tout cas, voilà, tu vois, c'est quelqu'un qui a réussi à s'affranchir totalement au niveau de l'esprit. Et même si ça peut paraître branle-couille, même si ça peut paraître un peu goudou, etc. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est quand même totalement dingue de dire qu'il y a des gens qui ont réussi ça, quoi. Et donc je pense que oui, en fait. Jouer le jeu, en fait, au-delà d'un truc physique de juste se barrer, parce qu'on le voit avec toutes ces émissions de J'irai dormir chez vous, etc. Tu t'affranchis que dalle de la société, mec, tu nous fais pitié.
Mes couilles.
Nos couilles.
Nos couilles.
Nos six couilles.
À part pour le Burning Man.
Oui.
Ça, j'ai kiffé.
Ça, c'est incroyable.
L'épisode du Space Cake, merci à vous.
Mais voilà, tout passe d'abord par le cérébral et profitez-en tant que vous êtes jeune, parce que de toute façon, c'est la plupart des gens qui écoutent ce podcast. Voilà.
Et qu'on a un ressenti de 35 ans.
Libérez-vous. Non, mais les gens de notre âge, libérez-vous.
C'est pour ça qu'on parle de retraite, notamment.
libérez-vous tant que vous le pouvez. Et essayons de maintenir une espèce d'autonomie intellectuelle relative.
L'autonomie, mec. Fondamentale.
Pour essayer de se libérer un petit peu de ce monde de brut dans lequel on vit.
Et là, je vais faire encore écho à ce que tu nous racontes. Je reviens sur Hitler, malheureusement.
Ça devait être la fin, merde.
Je nique trop, mais je donne du contenu, je m'en bats les couilles. Et fais-moi un signe aussi, là. je suis pas dans le visuel.
Derrière la vitre,
j'avais un coup. Bref, allez.
Oui, le lagnole.
Ouais. Par exemple, Hitler, je lis un bouquin en ce moment qui s'appelle The War of Art, la guerre de l'art.
Et wow,
le mec, putain. Mais je donne des leçons d'anglais aussi. Et le mec, il expliquait un principe qui m'a vraiment tarté la gueule. Il explique un principe qu'il a nommé la résistance. La résistance, en gros, c'est tout ce que tu rencontres et qui te dévie de ton travail, de ton potentiel. Et il expliquait en premier exemple du livre, il l'a choisi parce que c'est grave, ça claque de ouf. Mais il disait, par exemple, Hitler, à la base, il voulait être artiste. C'est pour ça qu'il il était étudiant à Vienne. Et il disait, si vous sous-estimez la force de la résistance, qui peut aussi s'interpréter dans l'affranchissement intellectuel et tout ça, et ben il donne cet exemple, il dit, par exemple, Hitler, il était plus facile pour lui de déclencher une deuxième guerre mondiale que de s'asseoir devant un tableau blanc et de peindre. Et c'est avec ça qu'il démarre le livre, et ça m'a mis une tarte en mode, tu te rends compte que notre bêtise, à quel point elle peut nous enfermer dans quelque chose tellement, mais...
immense.
Opposé à ce que tu voudrais faire. Tu vois ce que je veux dire ?
Waouh.
J'ai fermé des bouches. Merci à vous.
On va finir ce podcast sur le point Godwin. et on vous souhaite une résistance face au monde qui nous entoure. Et voilà, cette autonomie intellectuelle dont je parlais plus tôt. Et puis, de continuer à vivre malgré tout. Enfin, de toute façon, vous n'hésitez pas à
vous immoler sur la place publique.
Non, mais voilà, vous ne le ferez pas. Je vous connais très bien, tout ce temps que vous êtes.
Le dernier conseil est fou. L'immolation, les mecs. C'est ça, la solution.
Bon. Et c'était sympathique.
Tout à fait.
À mon avis, on est parti en couille grave, les gars.
Oui, évidemment, on a parlé du porno pendant plus d'un quart d'heure.
On s'en fout.
C'est pas un épisode que je recommanderais à mes parents, c'est sûr.
Putain, c'est le premier que j'ai écouté mon frère.
Il y a des réflexions très
poussées,
très poussées.
Mais il y a les illustrations qui sont
bluffé pas les bonnes. De votre culture et de votre. Vous avez sûrement remarqué que j'ai fermé ma bouche la plupart du temps. Mais c'est parce que vraiment.
Comment tu fais pour parler en nous suçant ?
C'est passé, quoi.
Non, je rigole.
Ça fait mal, même pour la blague, c'est mauvais.
Ah merde, on la coupera. Mais tu coupes,
t'as qu'à couper. C'est la dernière fois que tu viens sur ce podcast.
Non, mais t'as qu'à couper.
Non, mais je parle honnêtement. Mais non, mais t'inquiète. Je parle honnêtement et merci. d'avoir écouté. Merci à vous d'avoir accepté de faire ce podcast.
Et d'être toujours plus nombreux sur notre page Facebook.
Mec, sur Podcloud, il y a 250.
C'est vrai ?
Ouais.
Mais waouh. Mais envoyez-nous des enveloppes avec de l'argent.
Mais c'est mérité, les gars. C'est mérité.
Merci beaucoup.
C'est pertinent.
Et bah.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Gros bisous.
Là, normalement, il y a une petite musique.
Oui.
Allez, bisous à tous.